Radio Foot International.
Éric Chorin.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous du Café des Sports sur les ondes et en Facebook Live. Vous retrouverez Annie Gasnier dès la semaine prochaine à la présentation de Radio Foot International. On lui souhaite un bon week-end en famille, mais nos trois mousquetaires du Café des Sports sont là et bien là. Rémi Ngono, Xavier Barret et Alejandro Valente. Bonjour messieurs.
Salut Eric.
Bonjour Annie.
Oui, justement, justement messieurs, une pensée pour Annie?
Bah évidemment.
Bien sûr. Toujours.
On lui souhaite un bon week-end.
Bien sûr qu'on sait qu'elle est en train de nous regarder en ce moment et nous écoute en même temps. Hein.
Attentivement.
Voilà, attentivement.
Quoi qu'il en soit, même sans Annie, ce Café des Sports s'annonce bien serré en ce vendredi, jour anniversaire du roi Pelé. On n'a pas tous les jours 80 ans. Qu'évoque ce nom mythique pour vous? Quel souvenir en gardez-vous? C'est avec lui qu'on ouvrira l'émission. Une émission qui a lieu la veille du Classico, un Barça-Real attendu chaque année par la planète foot. Mais cette année, il se joue à huis clos au Camp Nou en plein après-midi. Et surtout, elle met aux prises deux géants au pied d'argile. Tous deux restent sur une défaite en Liga avec du mieux en Ligue des Champions pour les Catalans. Tout l'inverse pour les Madrilènes à la maison. Autre affiche demain en championnat d'Angleterre, Manchester United, Chelsea. Les Red Devils qui viennent de faire mal au PSG et les Blues où Edouard Mendy semble déjà indispensable. Un match où l'on reverra peut-être Edinson Cavani. Ça vous donne envie, je l'espère. Ah oui, tiens, j'allais oublier. Un club français a quand même gagné en Coupe d'Europe cette semaine. C'est Lille, le leader du championnat de France. Un hasard, je ne crois pas. Et vous? Et pour refermer ce Café des Sports, vous en avez l'habitude, nos trois débatteurs sortiront leur carton.
Acredita no véio, pode falar mise fio, que o véio tem força, faz seu time ganhar. O dinheiro é pro santo, pode pagar mise fio, que o véio não cobra pra trabalhar.
La voix que vous entendez sur ce morceau Acredita no Veio, je n'ai pas l'accent d'Annie malheureusement, c'est celle de Pelé qui a réenregistré ce titre écrit en 2005 en compagnie du duo de guitaristes mexicains mondialement connus, Rodrigo et Gabriela, lui depuis le Brésil, eux depuis le Mexique. Un morceau est disponible sur internet depuis aujourd'hui pour fêter les 80 ans d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, un Pelé confiné chez lui au Brésil pour se protéger du coronavirus et se préserver alors qu'il a connu des problèmes de santé sérieux ces dernières années, mais qui n'a pas perdu pour autant son sens de l'humour, surtout lorsqu'il s'adresse à ceux qu'il a battus durant son immense carrière.
Pour mes 80 ans, je remercie tous ceux qui m'ont adressé un message. Je tiens d'abord à remercier Dieu de m'avoir donné la santé pour arriver jusqu'ici avec une certaine lucidité, même si je suis loin d'être le plus intelligent. Et si j'ai fait quelque chose qui a pu rendre des gens tristes, notamment mes victoires avec Santos ou avec l'équipe du Brésil, ainsi que tous les championnats que j'ai gagnés et qui ont pu rendre mes adversaires malheureux, eh bien je leur dis que c'est la vie et je leur demande pardon aussi.
Parce qu'il en a battu beaucoup sur trois décennies de carrière, des années 50 aux années 70. L'ami Pelé, Xavier Barret, il en a battu beaucoup.
Ah oui, bah il a battu tous les records. D'abord, il en a établi beaucoup. Il faut rappeler cette victoire avec le Brésil, la première de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde en 1958 en Suède. Et à l'époque, il établit tous les records de précocité que personne, même Mbappé, n'ont pas réussi à battre depuis. Donc c'était un phénomène. Et moi, j'étais encore trop jeune pour pouvoir apprécier ses qualités de footballeur, mais j'ai eu l'occasion le rencontrer quand je suis allé au Brésil, notamment grâce à l'ancien correspondant de France Football, le regretté Alain Fontan, mais aussi son ami et photographe Luis Alberto, deux personnes décédées pour lesquelles j'ai bien sûr un souvenir ému, et qui étaient ses amis, et donc qui le connaissaient, le côtoyaient, et donc grâce à eux, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et effectivement, c'était une personne qui avait un grand charisme, et beaucoup d'humour, un vrai leader, oui. En fait, et c'est parfois ce qu'on dit, on cherche des leaders de vestiaire, des leaders d'équipe. Lui, il avait tout, un peu comme Platini chez nous depuis. C'était un leader technique, un leader athlétique, parce qu'il était aussi très costaud, donc sur le terrain. Mais c'était aussi un leader humain, j'allais dire. Il emmenait toute son équipe, tout son groupe derrière lui. Et c'est ça qui a fait qu'il a dépassé tout le monde en termes de notoriété.
Et qu'est-ce que Pelé incarne pour vous, messieurs? Rémi, aujourd'hui.
Ça incarne Dieu. Parce que, première des choses, on ne voit pas Dieu. Et nous ne l'avons pas vu. Donc, on ne voit que quelques images actuellement, dont on n'a pas connu cette période-là.
Vous étiez trop jeune.
Oui, mais en 58, je n'étais pas encore. Donc, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on essaie quand même de voir ces images-là, on se dit, mais il a fait quelque chose et qui est hors du commun. Déjà 1279 buts inscrits. Et quand vous voyez qu'en une année, c'est-à-dire par exemple en 59, il inscrit quand même 129 buts. Cela veut dire que c'est hors norme. Et surtout, on se rend compte d'une chose. C'est que moi, dans ma verte jeunesse, j'ai essayé de jouer au football. Et je peux vous dire que le ballon, il pesait. Et ce n'est plus comme maintenant, là. C'est-à-dire que vraiment pour tirer. Et comme je vois, par exemple, lorsque, en 70, il tire du milieu du terrain et que ça inquiète le gardien de but, je me dis, mais il avait une puissance phénoménale. Et aussi, il faut se dire que lorsqu'on voit la façon par laquelle il se débarrasse de certains de ses adversaires, on se dit quand même que avoir eu à jouer devant les bouchers à cette période-là où c'était des chasseurs des tibias, cela veut quand même dire que si Pelé naissait en ce moment, peut-être il aura atteint 1500 buts.
Un artiste, un technicien hors du commun. Alejandro Valente, vous êtes peut-être l'exception sur ce plateau, vous êtes notre doyen, de peu, hein, il est vrai, mais vous avez des souvenirs de Pelé.
Ah oui, moi je me rappelle surtout tous les cirques qui avaient été construits autour de son millième but. C'était je crois en 1969 et il devait le marquer dans un match contre une autre équipe brésilienne, Vasco da Gama, mais où les gardiens étaient en Argentine. Donc du coup, moi j'habitais en Argentine. En Argentine, on avait fait un énorme abattage autour de ce match et finalement ça a été un but pas terrible, un penalty. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'était son millième but, parce que je crois que les statistiques à l'époque étaient moins précises qu'aujourd'hui, et probablement on avait mis dans le lot plusieurs buts qui n'étaient pas vraiment officiels. Mais bon, le fait est que je pense que Pelé a fait entrer le football dans la modernité, parce qu'il est apparu au moment où la télévision arrivait dans les foyers, en 58. Mmh. Et du coup, c'est les premiers footballeurs que le monde a pu découvrir. On n'avait pas forcément tous les matchs en direct, c'était pas comme aujourd'hui, mais on arrivait quand même à en voir beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a marqué beaucoup les esprits, c'est de pouvoir finalement découvrir un footballeur partout dans le monde, alors que jusque-là, les grands noms du football et rester quand même cantonné au spectacle qu'il pouvait offrir devant le public des stades.
Il a d'ailleurs été un précurseur avec sa carrière ensuite aux États-Unis, mais on ne l'a jamais vu en Europe. Pour autant, jouer en tout cas dans un championnat européen, dans un grand club européen, c'est peut-être la seule chose qui manquait peut-être à sa notoriété. Et encore, est-ce que ça lui a vraiment manqué?
Oui, mais Pascal, à l'époque, Xavier, déjà, ouais. Le nombre de joueurs européens le nombre de joueurs étrangers par club en Europe était limité. Et puis, le championnat du Brésil, les compétitions en Amérique du Sud, El Jefe, lui, était en Argentine, était beaucoup plus élevé que maintenant. L'Europe n'avait pas le monopole du football mondial comme aujourd'hui avec notamment la Ligue des Champions. Donc, il y avait en revanche des défis qui étaient lancés régulièrement par des tournées. Donc les Hongrois allaient jouer au Brésil, les Brésiliens ou Santos venaient jouer en Europe. Donc à chaque fois, ces tournées qui étaient des tournées amicales à l'origine avaient une vraie valeur sportive parce que c'était l'occasion de se mesurer entre les Sud-Américains et les Européens.
Et puis il a gagné 3 Coupes du Monde tout de même. Hein, c'est pas donné à tout le monde.
58, 62, 70. Est-ce qu'il nous manque aujourd'hui? Juste pour finir sur ce sujet, est-ce qu'un joueur de cette envergure...
Il est toujours là. Et franchement, moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Je me souviens encore, bon, c'était il y a quelques temps, quand il s'était retrouvé sur le plateau d'un tirage au sort de Coupe du Monde, je crois, invité par la FIFA, il y avait Abedi Pelé donc, qui était là pour le tirage, et il a dit, je vous précise, c'est pas mon fils, parce que ça tombait en pleine polémique, on lui trouvait des enfants naturels un peu partout. Il avait dit, Abedi n'est pas mon fils, donc on voit que même dans des cérémonies protocolaires bien cadrées, il avait toujours un trait d'humour pour détendre l'atmosphère. Donc non, je crois qu'il nous manque pas tant qu'il est là. Il nous manquera quand il sera plus là.
Et c'est encore lui qui adoube, hein, généralement, les jeunes joueurs. On l'a vu récemment avec Kylian Mbappé, dont il a dit le plus grand bien. On aura l'occasion de reparler, on l'espère, de Pelé. Peut-être qu'on fêtera dans 10 ans ses 90 ans.
Bah, on l'espère.
On l'espère.
On espère qu'on sera là, nous, pour fêter ses 90
ans. Oui, nous
ans.
Aussi. On espère qu'on sera là.
De toutes les façons, contrairement à beaucoup d'autres, il aime beaucoup adouber. D'ailleurs, même Neymar, chaque fois qu'il est critiqué, je crois que c'est lui qui est toujours là derrière.
Pour le défendre.
Sachant que le roi Pelé dont on parle aujourd'hui, certains vont croire qu'il a eu à rouler pratiquement sur l'or ou qu'il a eu ce qu'on peut dire la bénédiction de la presse et des entraîneurs. On sait d'ailleurs que la Coupe du Monde où il est baptisé roi Pelé, il ne devait pas la jouer. C'est-à-dire que c'est Yao Avalanche qui va finalement forcer la main en licenciant, en limogeant l'entraîneur, qui trouvait que Pelé était déjà complètement fini. Pelé a eu à rebondir plusieurs fois. Donc à 29 ans, on estimait qu'il était déjà trop vieux. Il fallait laisser la place à Tostão, il fallait laisser la place, encore que les Jairzinho étaient déjà périmés. Donc Pelé, lui, il a eu à s'imposer devant des clubs où vous avez d'abord des rivaux internes. Parce que quand vous avez quand même une série de personnes, de grandes stars qui avaient devant Pelé
et
que votre entraîneur, que votre sélectionneur est contre vous, il fallait vraiment le faire pour qu'il puisse rebondir comme il a fait avec Zagallo au niveau de la Coupe du Monde de 1970 où il a été impliqué finalement dans, il a marqué 4 buts et il avait délivré aussi des passes décisives, donc 10 buts carrément. Donc moi je me dis, ce Pelé-là reste éternel, il est au trône, quoi qu'on dise, de toutes les façons, on ne peut pas comparer les périodes, on ne peut pas comparer ce Pelé-là à la période de maintenant, on dira que c'est le seul roi. Et comme dit un proverbe africain, il n'y a pas deux rois sur un même trône.
Prend donc l'avantage face au Barça. Domination logique de Cadix, 1-0 à Madrid. La première défaite cette saison de Barcelone en Liga. Cadix réussit un exploit énorme dans son histoire, vient s'imposer face au Real Madrid.
This is a very very special classic goal.
Y les preguntamos quién llega peor al clásico. Empieza por ti, Iñaki. ¿Quién llega peor, Madrid o Barça?
A very special classico, ce petit mix de Laurence Alerno pour revenir sur le contexte dans lequel le classico Barcelone-Real Madrid va se dérouler demain après-midi au Camp Nou, à savoir une défaite pour chacun des deux clubs lors de la précédente journée de Liga. 1-0 à Retafe pour le Barça et 1-0 à domicile face à Cadix pour le Real. Situation aggravée encore pour le club madrilène après sa prestation en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk cette semaine. Une défaite à la maison 3-2 après avoir été mené 3-0 à la pause. Écoutez l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane après ce match.
C'est un deuxième match, c'est un deuxième constat qui est compliqué, mais en même temps, c'est le football. Il faut essayer de se dire qu'il y a des moments compliqués, comme on a toujours eu de toute façon dans le passé. Et il va falloir relever la tête et se dire qu'on a besoin d'être ensemble et de se dire qu'on a un match déjà samedi et le préparer avec la maximum concentration qu'on doit avoir et faire un gros match parce qu'on est capable de le faire.
Pire chaque jour pour Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, qui évoque un Real Madrid en chute libre. Marca au diapason des journaux catalans, pour une fois. Sport qui titre ridicule et le Mundo Deportivo qui résume un cauchemar avant le Classico. Le Real Madrid semble avoir mis tout le monde d'accord en Espagne en l'espace d'une mi-temps face à Donetsk. Et vous messieurs, rien ne va plus au Real, Rémi ?
C'est pas seulement ça, même contre Cadix, d'autant plus
la belle
que,
de Cadix.
Voilà.
Mais oui.
Et de toutes les façons, moi j'étais déjà ici où je disais que j'étais beaucoup inquiet. Mais cependant, je crois quand même que avec Zinedine Zidane, nous avons un problème actuellement qui refait surface, c'est-à-dire que un effectif qui est usé et surtout on se rend compte qu'il y a des problèmes sur la préparation physique de ces joueurs-là. Est-ce que Zinedine Zidane va se relever? Oui. Il va se relever parce que le Real Madrid, il faut se dire qu'il remporte quand même la Liga. L'année dernière, avait aussi démarré pratiquement dans une situation presque similaire. Et là, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, Zinedine Zidane découvre la méforme de certains de ses joueurs. Certains seront obligés d'être écartés parce que à ce niveau-là, il est intransigeant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a essayé plusieurs formules. Parce que quand vous voyez ce qu'il essaye contre Cadix ou contre Shakhtar, c'est des équipes différentes avec des résultats presque de même. C'est-à-dire que c'est une déception totale avec des premières mi-temps qui sont chaotiques, catastrophiques, cataclysmiques. Donc, à partir de cet instant-là, il ne va pas insister. Je crois que il va refaire un Real Madrid avec d'abord un milieu de terrain qui sera un peu plus costaud où Casemiro pourra encore couvrir la défense. Et n'oublions pas aussi que, bien sûr, que lorsque vous avez une équipe où vous avez Marcelo, que sur les 8 dernières rencontres,
en compétition nationale. Le Real a perdu. Lorsque vous avez, par exemple, un Varane qui, dès que Ramos n'est pas là, il perd tous ses repères, on se dit quand même que ce Real Madrid-là, je crois qu'il est encore en train de tâtonner, mais n'est pas mort. J'ai dit bien, le Real Madrid n'est pas mort.
Le Real, Rémi a pointé certains noms de joueurs, Xavier, Alejandro. C'est la faute à qui, cette situation?
Mais, d'abord, je crois que la première chose, c'est que ce Classico arrive beaucoup trop tôt dans la saison, parce qu'on voit bien que les deux équipes ne sont pas prêtes, puisqu'effectivement, ils sont en fait en avant-saison, puisque la saison a été complètement décalée. Ils sont en avant-saison, donc effectivement, ils font des essais. Et là-dessus, je suis d'accord sur le constat avec Rémi Ngono. Aussi bien Zidane que Ronald Koeman à Barcelone, ils font des essais, ils essaient de lancer des jeunes, ils ont perdu des joueurs, il faut faire tourner l'effectif parce que les rendez-vous s'enchaînent et forcément il y a des ratés. Maintenant effectivement il y a plus d'inquiétude à Madrid puisqu'ils viennent d'enchaîner quand même deux défaites, alors que le Barça, bon, même si c'était que le Ferencváros de Budapest qui retrouvait la Coupe d'Europe 25 ans après leur dernière apparition, bon, ils ont quand même gagné assez largement et c'est toujours bon pour la confiance. Maintenant le problème du Real Madrid aujourd'hui, c'est que Zidane, c'est depuis son retour, il a voulu rajeunir les cadres, il a voulu rajeunir l'effectif. Il en était parfaitement conscient que cette équipe, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était parti en 2018, il était conscient que cette équipe, effectivement, elle était au bout du rouleau. Donc Cristiano Ronaldo est parti, et puis en fait, les autres ne sont pas partis. Gareth Bale, il a fallu le prêter au Tottenham de José Mourinho pour qu'il veuille bien s'en aller. Entre-temps est arrivée la crise, un recrutement sur lequel Zidane a une part de responsabilité qui ne s'avère pas aussi bénéfique qu'on le pensait, on pense bien sûr à Eden Hazard, et à l'arrivée, il se retrouve avec effectivement un effectif amoindri, des rendez-vous qui s'enchaînent, et donc, pour le moment, des résultats qui ne sont pas ceux attendus. Alors, l'année dernière, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que le Real avait mal commencé la saison également, et que Zidane s'était retrouvé sous pression, et que finalement, il avait réussi à rétablir cette situation en travaillant, effectivement, en exploitant au maximum les périodes de trêve internationale pour faire de la préparation physique comme il sait très bien le faire, de façon à ce que son équipe soit hyper performante dans les moments décisifs. Et finalement, elle l'a été, puisqu'elle a su gérer cette fin de saison très bien pour être championne. Mais voilà, aujourd'hui, il a besoin de temps et malheureusement, il n'en a pas beaucoup.
Il n'en a pas beaucoup, Alejandro ?
Moi, je pense que le problème du Real, c'est qu'on a fait une mauvaise lecture de la saison dernière. C'est-à-dire, on s'est dit, le Real a remporté le championnat, donc c'est une très bonne équipe. Pourquoi en changer ? D'autant que le Real Madrid n'avait pas forcément les moyens pour attaquer des gros morceaux. Or, ces titres étaient un peu trompeurs. C'est-à-dire que le Real a effectivement doublé Barcelone sur la fin, sur cette période post-Covid où les matchs se sont enchaînés. Ça a fini à 4 points d'écart. Il a été champion, mais des justesses. Et surtout, le Real avait, dans le même temps, été éliminé dès les quarts de finale en Ligue des Champions, avait été éliminé en Coupe d'Espagne. Donc, c'était déjà un Real Madrid qui tirait un peu la langue et qui a été champion plutôt à cause des défaillances de Barcelone plutôt que par ses mérites à lui. Donc, en ne renouvelant pas l'effectif et en laissant même partir des joueurs comme Reguilón ou James Rodriguez, qui réussissent un très bon début de saison en Angleterre, et sans que cela rapporte le moindre sou aux caisses du Real Madrid, il n'a fait que s'affaiblir encore davantage. Et beaucoup reprochent aujourd'hui au sein du club à Zidane d'avoir mal géré cet aspect de l'effectif et de ne pas avoir su utiliser des joueurs qui finalement prouvent qu'ils avaient les niveaux pour jouer au Real Madrid.
Alors cette question qui se pose forcément, Rémi, le sort de Zizou va-t-il se jouer au Camp Nou où il n'a jamais perdu en tant qu'entraîneur?
D'abord, je suis contre ce qu'ils disent là qu'il a, par rapport à l'effectif, non.
Sur la lecture, la gestion
sur la lecture, ouais. Non, parce que tu ne peux pas prévoir que Eden Hazard, ce sera vraiment ça, c'est-à-dire que les blessures qui vont s'enchaîner.
Non, oui,
quand on le prend, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, c'est-à-dire il était sur ses deux jambes.
Enfin, sauf s'il soit
à Marabout. Mais non, attends, ce que tu ignores, Alejandro, c'est que en fait, Zinedine Zidane a donné des préalables pour rentrer. C'est-à-dire que il voulait qu'on recrute, par exemple, Paul Pogba. Ce qui n'a pas été fait.
Mais ça, il y a deux ans.
Attendez, parce que si vous dites qu'il y a deux ans, n'oubliez pas que depuis tout ce temps-ci, le Real Madrid, même quand vous regardez les autres matchs, CSKA Moscou, justement, on utilise Zidane qui ne voulait jamais laisser partir Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas de lui, ce n'est pas de sa faute si Cristiano Ronaldo s'en va. Parce qu'il se retrouve devant une équipe où d'ailleurs, vous avez vu les Lopetegui et tous les autres qui sont venus le remplacer. Vous voyez CSKA Moscou contre Real Madrid, 26 tirs et aucun but. Finalement, le Real perd. Contre Levante, c'est 36 tirs. Et finalement, le Real perd. Donc, à une certaine période, Zinedine Zidane a dit, il faut, bien sûr, qu'il y ait des tueurs, mais Benzema n'est pas un killer. Il a beau se débrouiller comme il se démène là, mais il n'est pas un killer. On a vu qu'il peut enchaîner rapidement 7 matchs sans marquer. Donc, aujourd'hui, première des choses, Zinedine Zidane n'a pas un référent au niveau de l'attaque et fait jouer Karim Benzema. Maintenant, il a voulu recruter quelqu'un d'autre. Le club a dit, on attend parce que nous avons des possibilités uniquement de recruter en 2021. C'est-à-dire Kylian Mbappé. Et du coup...
Enfin, ils avaient recruté Mariano, ils avaient recruté Jovic, Vinicius, Rodrigo. Ils ont eu du recrutement la saison dernière.
Donc si Zidane n'est pas responsable, il y a d'autres responsables. Même si Rémi décharge un peu Zidane au sein du club.
Zidane est en partie responsable aussi.
Oui, parce que quand il est revenu, il a justement voulu être plus qu'un simple entraîneur et avoir aussi son mot à dire sur la politique sportive qu'il avait déjà un petit peu, puisqu'il avait l'oreille du président Florentino Pérez. Et donc, par exemple, le choix d'Eden Hazard, c'est lui. Ouais. C'est lui. Donc là, il a sa part de responsabilité. Ferland Mendy, c'est lui. Alors, c'est un très bon joueur. Mais quand vous avez deux latéraux gauches, Marcelo et Reguilón, qui étaient prêtés à Séville et que vous bradez à Tottenham, parce que vous gardez et Marcelo et Ferland Mendy que vous avez recruté, forcément, on se dit qu'à un moment, il y a peut-être eu un mauvais choix. Alors qu'à droite, visiblement, il y a des défauts.
Marcelo, il était déjà là, bien sûr. Il a fait une erreur où je peux vous donner raison sur Hakimi. Parce que Hakimi, normalement, devait partir. Et quand vous voyez aussi des jeunes comme Kubo, c'est-à-dire que Kubo, lorsque... Bon, on va dire que c'était la Ligue Europa, mais à peine, il a quand même joué. On a vu que, bon, il a marqué, il a fait 2 passes décisives, il a réussi 80% de passes. On a vu qu'il a remporté 8 duels sur 12, alors que... De l'autre côté, nous avons nos milieux où nous nous rendons compte que personne n'a remporté plus de 4 duels. Donc, à une certaine période, on se dit comment est-ce qu'on pouvait laisser partir des talents qui avaient la possibilité de se régénérer. Je n'ai pas dit que Zinedine Zidane n'est pas fautif.
Mais
j'ai dit...
Il n'a pas décidé pour tout, parce qu'Achraf Hakimi voulait le garder. Hein.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Après, il y avait des impératifs économiques. Le club a perdu beaucoup d'argent, comme la plupart des clubs de football actuellement. Et donc, il fallait céder certains actifs de l'effectif. Personne ne voulait de Gareth Bale qu'ils ont donc prêté. Il a fallu en vendre quelques-uns, notamment Achraf Hakimi.
Allez, Randro, une réaction sur justement un commentaire.
Les commentaires des auditeurs qui nous suivent sur les Facebook Live de Radio Foot International, et effectivement, ils sont plutôt pessimistes. Avant ce Classico, ceux qui supportent le Real Madrid, ils sont inquiets. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu un Real Madrid aussi fébrile atteindre ce Classico. Donc voilà, l'inquiétude est démise et la plupart pronostiquent une victoire du Barça.
Je vais vous dire une chose.
Oui, Rémi.
En 5 déplacements, Zinedine Zidane, chaque fois qu'il allait là-bas, les gens étaient pessimistes. Et il n'a jamais perdu au Camp Nou. Le Camp Nou, c'est le Camp Zizou.
Et pour aller dans votre sens, il en est un qui dit se méfier de la réaction du Real Madrid. C'est l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman.
Comme n'importe quelle équipe et entraîneur, quand on fait des erreurs, on veut s'améliorer. Mais ni eux, ni même nous, allons manquer de motivation. Les joueurs ont l'expérience de matchs de haut niveau. Je ne m'attends pas à rencontrer un Real Madrid vulnérable. J'attends même le contraire de Madrid.
Un Real dangereux, un peu comme une bête blessée, prévient Koeman, et un Barça qui, lui, a peut-être chassé les fantômes de la déroute 8-2 en Ligue des Champions face au Bayern en balayant Ferencváros 5-1. Alors, ce n'était que Ferencváros, vous le rappeliez, Xavier Barré. Mais est-ce qu'on peut dire, Alejandro Valente, quand même, que ce Barça va mieux?
En tout cas, je pense que Barcelone, contrairement au Real, je ne sais pas si le Barça va gagner ou pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Barcelone commence à se renouveler, commence à trouver des solutions qui sont intéressantes. On a vu face à Ferencváros, justement, non seulement Ansu Fati, qu'on a pris l'habitude de voir, un gamin de 17 ans qui réussit d'énormes performances, mais aussi Pedri, qui est un joueur qui a 17 ans aussi, qui est arrivé... Et cet été à Barcelone et qui très vite s'est imposé. On parle de lui comme du nouvel Iniesta. En tout cas, c'est un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes, qui n'a pas froid aux yeux, qui a une grande simplicité et qui apporte beaucoup. On a découvert Trincao, qui a été titularisé à la place des Griezmann. C'est un jeune Portugais qui a quand même beaucoup de culot, qui est très habile sur les côtés, qui apporte beaucoup en débordant et en offrant des solutions offensives au Barça. Donc il y a toute une jeunesse qui pointe son nez et qui promet des lendemains un peu plus sympathiques à Barcelone.
Ce que vous nous dites, Alejandro, c'est que le Barça est en train de réussir sa mue. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs Rémi, Xavier, sur cette évolution du FC Barcelone, tout en incluant quand même Léo Messi qui a fait un grand match cette semaine.
Je crois que toute la stratégie du Barça ces derniers mois, ça a été de garder Messi, mais de l'entourer de nouveaux éléments, d'éléments plus jeunes, et d'en faire en fait le guide de cette nouvelle génération. Alors, on ne va pas se fier à un match contre le Ferencvaros, hein, mais c'est vrai qu'on sent que ça part plutôt dans le bon sens. Malheureusement, Griezmann n'est pas dans le bon wagon, parce que on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Mais les noms que nous donnait El Jefe sont effectivement cette nouvelle génération. Et ça me rappelle ce qui s'est passé en 2008-2009 et dans les saisons suivantes avec Pep Guardiola. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il voulait effectivement recruter, mais on lui a dit « on n'a pas d'argent ». Débrouille-toi avec les joueurs de la Masia. Et donc, c'est comme ça qu'il a récupéré Pedro, dont plus personne ne voulait. C'est comme ça qu'il a fait monter des petits jeunes. Alors, tous n'ont pas percé, mais on pourrait citer les Brésiliens Dos Santos. Il y avait aussi Isaac Cuenca. Enfin, il y a eu plein de petits jeunes qu'il a lancés. Il y en a qui ont marché, Bojan Kirkic, etc. Puis il y en a qui n'ont pas marché. Mais à l'arrivée, le Barça a tout gagné avec ces jeunes qui venaient épauler des joueurs déjà confirmés. Et là, on a un peu le sentiment qu'il est en train de se repasser ça. Et moi, je trouve ça très bien, justement, que ces jeunes de la Masia, dont on entend parler régulièrement et qui, ces dernières années, avaient beaucoup moins leur chance qu'auparavant, finalement, puissent trouver leur place.
Pas, parce que Trincao ou Pedri n'ont pas été formés à la Masia, mais ils sont arrivés très jeunes. Il y a Dest aussi, les jeunes américano-hollandais qui viennent d'arriver, qui est également très prometteur, qui offre en tout cas beaucoup de fraîcheur. Et puis il y a Ricky Puig, on a vu quand même beaucoup d'autres joueurs qui sont très intéressants.
Rémi, la Masia, c'est ce qui manque au Real Madrid ?
Non, le Real Madrid n'a pas la même politique que le Barça, qui peut-être est en train de retrouver quelques couleurs, mais ce n'est pas aussi flamboyant que ça. C'est vrai que pour que le Barça de Cruyff revienne comme il était là, bien évidemment, c'est des gens comme les Koeman qu'on est parti justement pêcher comme ça là pour remonter avec Pep Guardiola qui était encore très jeune et qui se sont imposés. C'est vrai que le Barça qui gagne la Ligue des Champions en 92 quand même est composé à près de 60% de la Masia. C'est vrai que le Barça qui gagne la Ligue des Champions en 2006, c'est complètement la Masia. Donc ça, c'est quelque chose qui est régulier, mais cependant, lorsque je vois cette équipe-là, également, je ne rêve pas beaucoup. Ça ne me fait pas beaucoup rêver. C'est vrai que, on peut dire que certains sont assez bien. C'est vrai que je découvre aussi Trincao, que je ne connaissais vraiment pas. Mais lorsqu'on voit l'équipe du Barça derrière aussi, ça a beaucoup de fébrilité. Parce que, bien sûr que on oublie le Real, mais on oublie que par exemple Vinicius, il va faire que Piqué se transforme en serpent, il va ramper, il va brouter de la pelouse. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Ça, c'est le jeu du Barça.
Donc, à une certaine période, on peut bien regarder par devant. Mais je dis toujours que il faut regarder derrière. Donc, il faut regarder derrière. Donc, moi, je dis, Barça a bien des faiblesses derrière, même si aujourd'hui, ils essaient de défendre ensemble.
On a vu le Real Madrid derrière face au Shakhtar Donetsk sans Sergio Ramos. Alors, probablement que Sergio Ramos sera de retour pour jouer ce classico, mais on voit que les équipes qui essayent de faire du jeu et d'attaquer, forcément, de temps en temps, elles se déplument derrière. Mais excusez-moi, je préfère ça que des équipes qui bétonnent. Donc, c'est le risque du jeu du Barça. Mais ça, on le sait. Effectivement, de temps en temps, les défenseurs sont livrés à eux-mêmes. Mais quand ils arrivent à garder le ballon et à trouver des solutions offensives devant, normalement, ils gagnent. Alors, c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps.
Alejandro, ça fait réagir en tout cas encore.
Oui, il y a quelques auditeurs sur Facebook Live qui me reprochent d'avoir lu prioritairement le message des supporters du Barça. Alors, je rends la parole à ceux du Real Madrid, comme Pape Salim Bay et d'autres qui se montrent un peu plus optimistes. Mais bon, je dois dire honnêtement que je les trouve un peu minoritaires pour le moment sur les fils des commentaires de notre émission.
Une dernière question sur le sujet à vous trois messieurs ou à celui qui se sentira le plus inspiré sur ce sujet, alors qu'on avait quand même l'impression toutes ces dernières dernières années que c'était le match de l'année. Le Classico, ça semblait immuable entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce que vous nous dites quand même sur les deux équipes, c'est quand même qu'on a deux pâles copies un peu cette année. Hein.
Ah, mais oui. Surtout, il est beaucoup plus trop tôt. Il est trop tôt dans la saison.
Ça arrive dans une saison.
Il arrive alors qu'il y a eu 3-4 matchs de championnat à peine joués. Donc les équipes sont pas lancées. Le calendrier.
Mais est-ce que c'est inquiétant qu'un tel rendez-vous
Il y a une vraie inquiétude parce qu'on se rend compte quand même que la Liga est en train de perdre un petit peu de ses couleurs face à d'autres championnats. On l'a vu en Ligue des Champions, la déroute de l'Atlético Madrid face au Bayern après celle du Barça il y a quelques mois, on sent qu'il n'y a pas le même enthousiasme, le même engouement. Il y a Messi qui est un peu seul parmi des joueurs qui sont beaucoup moins remarquables. Bon, il y a toujours Sergio Ramos ou Benzema également, mais c'est pas le classico d'il y a 10 ans quand il y avait Guardiola, quand il y avait Mourinho, quand il y avait Cristiano Ronaldo, un Messi plus jeune, Iniesta, Xavi. C'est sûr qu'on n'est pas au même niveau.
Mais je suis sûr que vous serez tous devant le poste demain à 14h, temps universel, pour suivre ce Barça à Real qui va se dérouler au Camp Nou, 100 000 places, mais ce sera totalement vide.
Still it's not clear. Adams hits it. He doesn't go out of play. He smashed it into the roof of the net.
Kepa est complètement en dehors. Quand il revient là, on a l'impression qu'il oublie qu'il peut se servir de ses mains. Il fait tout à l'envers, Kepa, malheureusement pour lui.
Kepa slips over and in the end, Adams and Ings are trying to put it in. Kepa gets back and Adams
absolutely Fred Carno is at the back.
Do you speak English? Moi pas très bien. Vous l'avez compris en tout cas, nous sommes désormais en Angleterre, hein, où l'affiche du week-end oppose Manchester United à Chelsea demain. Et pour introduire cette séquence, Laurence Salerno, bien aidé, il faut dire, par Souel Kedir, s'est acharné sur un joueur qui ne jouera pas ce match. C'est Kepa Arrizabalaga, touché à l'épaule. Un Kepa de toute façon hors de forme, comme la bourde qu'il a commise face à Southampton la semaine dernière l'a encore démontré. On vient de l'entendre, l'Espagnol n'est plus le gardien numéro 1 des Blues. C'est désormais le Sénégalais Edouard Mendy qui tient ce rôle. Frank Lampard lui-même, son coach, l'a indiqué hier soir après le 0-0 entre Chelsea et Séville en Ligue Europa. Alors il est arrivé de Rennes fin septembre dans la peau de numéro 2, Edouard Mendy, seul gardien africain en Première Ligue, et il a donc passé un cap très très vite. Ça met la pression, Edouard ?
C'est pas une pression, je le prends pas comme une pression, mais je le prends comme une responsabilité. C'est une responsabilité aujourd'hui d'être un gardien africain et de jouer dans ce championnat. C'est à moi de montrer que aussi on peut performer ici, et peut-être que le regard des gens ou les choses vont évoluer par rapport à ça.
Première question, monsieur, avant d'évoquer ce que vient de dire Edouard Mendy, est-ce qu'il est déjà indispensable à Chelsea, numéro 1 en tout cas, ça ne se discute pas?
Forcément, parce que Kepa, j'ai beaucoup de peine pour ce joueur qui est arrivé comme le joueur le plus cher de l'histoire pour remplacer Courtois et qui est dans une telle...
De l'histoire de Chelsea, c'est ça
de même de l'histoire...
Le gardien de but le plus cher.
Le gardien le plus cher de l'histoire.
Le football. Donc Kepa est un jeune qui a beaucoup de talent, mais qui s'est égaré, qui a une vraie crise de confiance aujourd'hui. On le sent dans les matchs et la fébrilité qu'il montre. On sent que c'est un joueur qui a du mal. Et c'est un jeune joueur et j'espère qu'il va retrouver la forme, mais probablement pas à Chelsea. Il faudrait qu'il puisse partir ailleurs. En attendant, Edouard Mendy, qui aurait pu imaginer Edouard Mendy gardien de Chelsea il y a quelques temps, et pourtant, face à Séville, il a fait un grand match. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un des clubs les plus importants de Première Ligue. Et c'est un grand triomphe, je pense, pour le football africain et sénégalais en particulier.
Il est là que depuis un mois, Xavier, Rémi. C'est impressionnant quand même cette installation au poste de numéro 1 dans les buts des Blues.
Après, il n'est pas tout jeune.
Oui, hein, il est né
il y a 28 ans en Normandie. Il a pas mal galéré avant de connaître une première forme de reconnaissance au stade de Reims. Hein. Là, il a connu la montée. Dans un club avec un univers familial où on lui a fait confiance. De là, il est passé à Rennes et ça a été un très bon choix puisque le stade rennais a lui aussi progressé.
Un très bon choix pour grandir.
Pour grandir, bien sûr. Ça a été une carrière qui a mis un certain temps à se décanter, mais qui finalement en a fait un spécialiste du poste solide. qui a été recommandé donc par Lolichon, l'ancien entraîneur des gardiens de Rennes, qui était passé à Chelsea avec Petr Cech à l'époque, le Tchèque. Et donc Edouard Mendy, il est un peu sur cette même ligne, hein, de Rennes à Chelsea. On peut lui souhaiter que le même succès que Petr Cech, même si lui, il y arrive un peu plus tardivement. Mais non, c'est ça qui fait sa force en fait, c'est cette expérience, cette sérénité, ce fait d'avoir connu un peu des galères au début de sa carrière avant d'arriver là où il est maintenant. Donc forcément, il savoure beaucoup plus le moment, cette chance qui lui est donnée, et ses expériences d'avant lui permettent de gérer ces situations délicates, parce qu'à Chelsea, il a une grosse pression, évidemment, il est très attendu, et pour le moment, c'est vrai que le match contre Séville a prouvé qu'il avait su parfaitement gérer la situation.
Est-ce que Mendy évoquait, Rémi, c'est vrai que les joueurs de champ africains sont à la pointe, hein, dans le championnat, dans la première ligue, et notamment les attaquants, on le sait, avec ceux de Liverpool qui se sont totalement imposés. Mais un gardien, c'est nouveau. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que ça sera un cas isolé?
Ce n'est pas un cas isolé. L'Afrique a toujours eu des très, très, très grands gardiens. N'oubliez
en France, notamment, il y en a eu beaucoup.
N'oubliez pas Bel Joseph Antoine et surtout Thomas Nkono, et qui d'ailleurs a inspiré les bouffons et consorts, donc l'araignée noire. Et n'oubliez pas les grandes prestations d'Onana, qui d'ailleurs devait aller dans ce Chelsea-là. Onana, tout le monde le voulait, avec les prestations qu'il a eu à faire au niveau de l'Ajax et tout, ou même le jeune Ondoa qui n'a pas eu beaucoup de chance à rester beaucoup au banc de la réserve du Barça. Donc on se dit quand même que si aujourd'hui il a eu cette évolution-là, et il a percé d'un seul coup comme ça, c'est une très bonne chose pour aussi les gardiens africains, parce que d'ailleurs, il pouvait bien jouer en première ligue ou n'importe où, mais on ne s'en occupait pas beaucoup parce que les gardiens africains sont sous-cotés. C'est ça, ça c'est la réalité. Mais aujourd'hui, avec lui, certainement, il est parti dans le championnat le plus cher et le plus visible, le plus coté. Certainement, il va permettre qu'on puisse encore regarder les derniers remparts de l'Afrique qui sont certainement à gauche et à droite et qu'on ne découvre pas encore parce qu'ils sont encore dans l'obscurité. Mais comme le dit un proverbe africain, le soleil n'oublie jamais de briller dans un petit village.
Le petit village, là, c'est la première ligue, en fait.
Non. C'est-à-dire, le petit village, c'est la
Normandie.
C'est la Normandie.
C'est l'Afrique. C'est comme ça. Après, moi, je parle des gardiens d'Afrique.
Mais en tout cas, il a le sentiment de porter une vraie responsabilité.
La différence entre ce que dit Rémy Nkono et la réalité, c'est que quand il cite Joseph Antoine Bell et Thomas Nkono, c'était des gardiens qui avaient grandi en Afrique. Là, on est dans le cas d'un gardien qui a grandi en France. Qui est né en France, qui a grandi en France.
Mais qui peut en inspirer d'autres sur le continent.
Qui peut en inspirer d'autres.
Évidemment,
mais toute sa formation et même toute sa carrière.
Il ne fait pas semblant d'ignorer Onana.
Il l'a fait en France. Aujourd'hui, il joue pour le Sénégal et tant mieux pour les Lions de la Teranga. Mais tout ce cursus qu'il a fait, il le doit d'abord au football français. Donc, c'est pour ça que, effectivement, il doit inspirer des exemples. Rémi citait Onana, Ondoa. Effectivement, il y a des vocations sur le continent africain. Mais des gardiens, la nouvelle génération, les successeurs de Nkono et dans Joseph Antoine Bell, il faut qu'ils s'affirment. Pour le moment, des gardiens africains formés en Afrique, il n'y en a vraiment pas beaucoup au très haut niveau.
En tout cas, il est africain, même s'il a été formé en France, et l'image que peut représenter la Première Ligue à travers le monde, Alejandro, c'est quand même quelque chose d'important, justement, et il en a vraiment conscience, on a le sentiment.
Absolument, s'imposer en Première Ligue, qui plus est dans un grand club comme Chelsea, qui est habitué à disputer la Ligue des Champions, ce n'est pas rien, et c'est vraiment important. D'ailleurs, nos auditeurs sur Facebook Live sont unanimes pour le saluer. Il y a même Stéphane Cassac qui lui conseille de garder les pieds sur terre. C'est qui, pour un gardien, peut-être pratique.
C'est très grave, ça. S'il garde les pieds sur terre,
il est tellement grand, je pense que sans sauter, il touche la transversale.
Alors, on le verra, en tout cas, Edouard Mendy, demain sur la pelouse. Autre joueur sur lequel on avait envie de mettre la lumière avant ce Manchester United-Chelsea, c'est celui qui a largement contribué à faire basculer le match des Mancuniens à Paris cette semaine. C'est Paul Pogba, il fait toujours débat. Écoutez ce qu'on disait Gilles Verdez ici même, je crois que c'était il y a une semaine, après la victoire de l'équipe de France face à la Croatie.
Oui. Carton vert à Paul Pogba. Pourquoi? Parce que le guerrier Pogba, il rentre en Croatie alors que la France est malmenée. On touche plus un ballon au milieu de terrain. Il rentre, je cours, je long pour Digne, c'est le but de la victoire. C'est le faiseur de miracles. D'ailleurs, à un moment, Deschamps savait plus quoi faire. Il s'est tourné comme ça vers les tribunes. Il a vu Pogba, il a fait entrer Pogba, on a gagné. Et c'est pareil à Manchester, son entraîneur. J'aime pas beaucoup l'entraîneur. Mais il dit, surtout, il partira pas pendant deux saisons, je le garde. Parce que Pogba, vous le mettez sur le terrain et vous gagnez. Donc, carton vert au joueur qui fait gagner toutes ses équipes.
Gilles Verdez, visionnaire. Alors, messieurs, il a raison. Pogba est indispensable alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi à Paris. Lequel veut commencer? Allez, Andro.
Il connaît le football quand même, Gilles Verdet. on en a eu encore la preuve. Mais c'est vrai que Paul Pogba est un joueur un peu inclassable, extraordinaire avec sa puissance et sa technique. C'est un mélange des talents qui le rend, à mon avis, indispensable. Et c'est vrai qu'on comprend mal quand il ne joue pas. Mais bon, je pense que aujourd'hui, toutes les équipes sont confrontées, en tout cas celles qui disputent la Ligue des Champions, sont confrontées à un calendrier comme on n'a jamais vu. On n'a jamais eu cette accumulation des matchs, ces matchs des Ligues des Champions qui arrivent semaine après semaine et qui font jouer les équipes pratiquement tous les 6 jours. Donc, je pense qu'il est assez avisé de la part des Solskjaer de gérer un petit peu le temps de jeu de ces joueurs
importants. C'est un choix tactique.
Oui, Xavier.
C'est un choix tactique parce qu'on sait que Manchester United n'est jamais aussi bon, en tout cas depuis que Solskjaer en est l'entraîneur, que quand il joue le contre. Et ce qu'ils ont fait en venant à Paris, c'était délibérément de jouer le contre. Il y avait 2 attaquants, là où d'habitude il peut en mettre 3. Et donc il avait renforcé son milieu de terrain avec McTominay, avec Fred. Voilà, donc le but du jeu, c'était de bloquer les Parisiens qui, eux, ont l'habitude de faire le jeu. D'ailleurs, les statistiques, je crois, c'est un peu plus de 30% de possession seulement pour Manchester United. Et à l'arrivée, la stratégie a marché. Et malheureusement, dans ce mode de fonctionnement, eh ben Pogba, il n'est pas indispensable parce que Pogba, c'est pas un joueur qui se contente de défendre. Et justement, c'est un joueur qui a un talent fou, qui peut créer. Et quand vous avez aussi dans ce groupe-là Bruno Fernandes et Danny Van de Beek, voire Juan Mata, forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, la chance pour le moment, c'est que le calendrier étant hyper serré, on fait tourner. Évidemment que Pogba, au sommet de son art, il a sa place. Mais là, les impératifs font que Solskjaer, pour le moment, son équipe, elle gagne plus tôt quand il joue le contre, même si c'est pas le jeu qui nous plaît le plus. Eh bien, et parfois sans Pogba, ou en tout cas sans Pogba titulaire.
En tout cas, demain, Paul Pogba, on verra s'il est titulaire. On verra aussi si Edinson Cavani fera son apparition, hein, parce qu'il n'était pas dans le groupe parisien, dans le groupe mancunien pour le match face au Paris Saint-Germain. On aurait eu envie de le revoir.
Vous voyez, à l'entraînement, il avait l'air affûté. Et je pense que Solskjaer pense qu'il
sera titulaire.
Pourra compter sur lui, en tout cas.
À vérifier demain. À 16h30, temps universel, Manchester United, Chelsea.
Attention à cette intervention.
Et voilà, voilà l'erreur qui est payée. Content pour un coup du chapeau, effectivement, un superbe triplé de la part du Turc Yassissi.
Youssouf Yassissi, auteur d'un triplé hier soir pour la victoire de Lille 4-1 sur la pelouse du Sparta Prague pour ses débuts dans la compétition. La seule victoire d'un club français sur la scène européenne cette semaine. Elle a mis du temps à venir et 3 buts de Yassissi, le milieu turc que l'on avait un peu oublié après sa blessure au ligament fin 2019. Mais sa perfidia n'a pas vraiment surpris au moins un homme, hein, c'est son entraîneur, Christophe Galtier.
Étonné, non, parce que quand Youssouf a été recruté, à peu près à 16 millions, c'était un joueur qu'on souhaitait avoir avec beaucoup de qualité. Il nous apporte quelque chose de différent dans le jeu. Son pied gauche, sa frappe, sa clairvoyance. J'avais pris l'option de le faire démarrer sur le côté, c'était une mauvaise option, il a fallu rectifier assez rapidement. Et quand il s'est retrouvé entre les lignes, sous l'attaquant, il est clairvoyant, mais il a aussi un bon pied, il est obsédé par le but. Et voilà, c'était important pour lui, important pour l'équipe. Il a saisi l'opportunité, je suis vraiment très content pour lui parce que ces derniers temps il n'était pas heureux. Là ce soir je peux vous dire qu'il est très heureux dans le vestiaire et des joueurs heureux dans un vestiaire c'est toujours bon signe.
Galtier heureux pour Yassissi, Xavier, mais en plus qui fait un aveu, il l'avait mal positionné au début du match.
Oui mais moi j'avais la chance de le commenter dans le championnat turc qui était diffusé sur Canal Plus Sport International
avant son arrivée en France.
Trabzonspor et je trouvais ce joueur extraordinaire. Il avait un talent fou et si Trabzonspor arrivait à tenir le choc face au club d'Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş et puis maintenant Istanbulspor, Başakşehir pardon, c'est parce qu'il y avait notamment ce talent-là. Et quand il est arrivé l'an dernier à Lille, j'ai dit on va voir ce qu'on va voir et en fait on n'a pas vu parce qu'il lui a fallu un temps d'adaptation qui a pas été tout à fait réussi et finalement on se rend compte que maintenant au bout d'une saison en France il commence à trouver ses marques et que Christophe Galtier sait comment l'utiliser. Alors pas dès le coup d'envoi mais très vite il a su recadrer. C'est un garçon qui est effectivement une très bonne pioche de la part du LOSC, il a mis un peu de temps à s'adapter mais moi je suis pas du tout surpris par ce qu'il est capable de montrer.
Et juste un petit mot Rémi, j'aimerais avoir vos sentiments en Lille avec des joueurs comme Yassissi, est-ce que c'est le meilleur club français actuellement?
Non, c'est le PSG qui est le meilleur club français.
Absolument, dans l'absolu. Mais en ce moment. En ce moment,
c'est toujours le PSG. C'est toujours le PSG. Parce que, de toutes les
façons. On risque à Rémy Ngono.
Ah oui, ça c'est vrai, c'est le PSG. C'est le PSG, ça. On peut dire tout ce qu'on veut. Le PSG peut connaître une petite traversée de désert, mais il reste le meilleur club. Et de toutes les façons, moi, j'ai apprécié ce que Lille a fait. Mais cela ne m'a pas aussi pour autant épaté. Tout comme aussi l'OM aurait pu lui-même ramener un nul, mais bon, comme l'OM lui aussi joue pour battre le record européen de l'équipe la plus battue en Ligue des Champions, donc maintenant ils sont à 10 défaites consécutives, donc certainement ils iront jusqu'à 12. Au moins cela, la France aurait remporté aussi un grand trophée.
En tout cas Rémi, la question était un peu provocatrice, hein, évidemment, mais ça changeait un petit peu de ne pas avoir le Paris Saint-Germain en tête du championnat de France de football avant ce match donc entre Lille et Nice dimanche. Nice qui s'est effondré 6-2 à Leverkusen, le sort de Vieira, il est scellé ou pas?
Alors, il ne faut pas s'en tenir au résultat de cette Europa League, parce que Lille, c'est vrai, c'était très bien, mais ils ont joué contre un Sparta de Prague réduit à 10 dès la 23e minute, je crois, donc forcément, c'était plus facile. Alors que Nice jouait à Leverkusen face à une équipe dimensionnée pour la Ligue des Champions et qu'il a raté d'un rien lors de la dernière journée du championnat d'Allemagne. Donc, je pense que le Nice-Lille de ce dimanche sera beaucoup plus
équilibré. Ils ont fini 5e, laissez-nous ça.
Qui, Leverkusen?
Toujours les mêmes choses. Vous êtes toujours là en train de dire qu'une équipe qui a moins 1 a failli faire ceci.
Je dis que ce Nice-Lille sera beaucoup plus équilibré que ne laisse penser les résultats qu'ils ont obtenus sur la scène européenne ce jeudi.
En tout cas, Rémi, Xavier, alors si j'en crois...
Une équipe qui prend 6 buts et ça, monsieur, vient s'excuser ici.
Xavier Barret, c'est pas possible. Si j'en crois, Xavier Barret, ce sera le classico, en fait, en championnat de France entre Lille et Nice.
Ce sera une affiche très intéressante, absolument.
Et juste dans un instant, on va passer au carton.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion,
carton vert,
extraordinaire,
rien à dire.
Pour détendre l'atmosphère, en attendant Xavier et Rémi, Alejandro, pour commencer ces cartons.
Bah écoutez, je vais sortir 4 cartons verts tout d'un coup.
Quatre
buteurs africains qui se sont illustrés cette semaine en Ligue des Champions, qui ont marqué. Alors, il y a Jean-Daniel Akpro, Ivoirien de la Lazio. Il y a Emmanuel Denis, Nigérien de Bruges. Il y a Ahmed Hassan, malheureusement Égyptien de l'Olympiakos, qui a crucifié l'OM. Et Rami Ben Sebaini, l'Algérien de Mönchengladbach, qui a marqué lui aussi. Donc voilà, bravo à ces quatre joueurs africains qui nous ont fait bien plaisir.
Merci Alejandro. La couleur de votre carton, Rémi?
La couleur est jaune.
Ah,
je voulais mettre rouge. Uh-huh. Ouais, mais j'ai un peu changé. C'est Hervé Bagré de ma page Facebook, Rémy Ngono officiel, qui donne donc un carton rouge, mais moi j'ai transformé en jaune. Ah! Antoine Griezmann! Ah oui, Antoine Griezmann.
Pas,
après ses déclarations, lui qui disait que lui peut déjà s'asseoir sur la même table que Cristiano Ronaldo et Messi. Eh bien, on voit qu'il ne parvient même plus à s'asseoir sur la même table qu'un garçonnet de 17 ans qui a pris sa place. Comme le dit un proverbe africain, la grenouille veut se comparer à l'hippopotame, mais n'y parviendra jamais.
Chez nous, on dit le bœuf, je crois.
Si Rémi s'est mis à utiliser la VAR pour changer la couleur de ses cartons, là...
Juste un carton, alors, Xavier, rapidement, on a le temps.
Très rapide à la FIFA ou aux promoteurs, en tout cas, de ce nouveau championnat qui veulent organiser une espèce de Super League. Commence à nous fatiguer avec tous ces projets qui n'ont qu'un seul but, c'est de faire monter les enchères, alors qu'actuellement, le football connaît une crise sans précédent. Restez sereins, messieurs, pour éviter le carton rouge.
Merci messieurs, un petit carton vert aussi à Marcus Rashford qui continue à s'intéresser aux enfants et notamment à essayer de les nourrir. Il avait essayé pendant le confinement, il a essayé de continuer, il a trouvé des relais privés parce que Boris Johnson ne l'accompagne pas réellement au niveau public. Radio Foot International referme son Café des Sports, émission réalisée par Laurent Salerno et préparée avec Sarah Loubacouche pour le Facebook Live, toujours plus populaire. Swell Kedir et Léo Bernard étaient à la réalisation. Bye bye.